Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir Internet, comment ça va? Bienvenue dans ce nouveau C'est ça qu'on aime. Nous sommes donc au 19e épisode. Merci de continuer à nous suivre. Si vous êtes des nouvelles têtes, bienvenue. Écoutez, je suis Louise, je suis chargée des lives et des podcasts chez Mademoiselle. Et C'est ça qu'on aime, si vous ne connaissez pas encore, c'est une émission où nos invités partagent leur passion, qu'elles soient passagères ou qu'elles prennent tout leur temps depuis à peu près 18 ans, voilà, ça peut arriver. Comme toujours, on est en direct sur YouTube et vous pouvez nous retrouver en podcast en cherchant Mademoiselle Audio sur Internet. Vous allez trouver Mademoiselle en audio, c'est hyper facile. Salut Solène, bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup.
Écoute, je suis très heureuse que tu viennes chez Mademoiselle parce que tu as fait le trajet depuis Nantes.
Ouais, c'était sympa.
Je te remercie, c'est vraiment le dévouement, hein, parce que c'est les canicules et tu viens à Paris. Alors qu'il fait moins chaud à Nantes, pour passer une heure avec moi sous des lampes qui vraiment vont nous rajouter 10 degrés dans la pièce en une demi-heure. Donc merci pour ta dévotion. Ça me fait très plaisir que tu sois là, parce qu'on va parler d'un sujet hyper intéressant. Et en fait, t'es ma seule invitée ce soir. Parce que quand on s'est eu au téléphone la première fois, on a parlé pendant 20 minutes et j'étais vraiment loin d'être au bout de mes questions. Et j'ai appris plein de trucs et je me suis dit, mais c'est formidable, elle sera ma seule invitée et on va faire une émission spéciale, c'est ça qu'on aime, avec Solène.
Avec moi.
Qui va nous parler de quoi ?
Je vais vous parler de scoutisme.
Eh oui ! Et on va essayer de détruire un peu les a priori du scoutisme. Parce que, par exemple, moi j'en avais. J'avoue, j'en avais... ce qu'on voit dans les films, dans les histoires et tout, enfin il y a un truc
dans les sketchs aussi. Le Palmacho font beaucoup de blagues sur les scouts.
Ah ouais.
Ouais, dans leurs sketchs.
Est-ce que ça te vexe un peu?
Non, ça nous fait beaucoup rire.
Ça va alors. avant de rentrer dans le détail de comment toi t'es rentrée chez les scouts et pourquoi tu kiffes les scouts et pourquoi c'est trop bien, j'aimerais qu'on explique aux gens ce que c'est vraiment le scoutisme. Parce que moi, je ne le savais pas. Tu m'as expliqué des trucs. J'étais là, mais c'est trop bien, en fait. Enfin, genre, j'aurais aimé qu'on me dise les scouts, c'est ça. Et que je le sache. Parce que maintenant, j'ai 25 ans. Je ne peux pas servir à grand-chose dans les scouts.
Techniquement, si, tu peux encore être chef. Ah ouais. Il n'y a pas vraiment d'âge pour être chef.
Intéressant. Alors, on va parler du premier truc. Donc, les scouts, c'est un mouvement de jeunes qui existe depuis un siècle.
110 ans précisément. Le premier camp de scout était en 1917 au Royaume-Uni.
Ok.
Et les scouts en France sont arrivés, je crois, en 1913, si je dis pas de bêtises.
Ok, ça pèse. Ça commence à faire un sacré bout de temps, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et donc, qu'est-ce que c'est l'objectif du mouvement scout? Si on parle sur le plan large, quoi.
Alors, si on parle sur le plan large, l'idée, c'est d'éduquer des jeunes à être... à vivre dans la nature, à vivre en communauté et à monter des projets, à prendre l'autonomie, donc par les projets, et aussi éduquer un peu. Le scoutisme, c'est pas mal pour éduquer à la paix aussi, la tolérance, l'ouverture aux autres, etc. C'est assez cool là-dessus.
Ce qui est dingue, parce qu'un des a priori majeurs du scoutisme, c'est un truc de catho.
Et que c'est une secte.
Aussi que c'est une secte. Ah, je ne l'avais pas, celle-là. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Comment, toi, tu fais partie des skits et goûts de France, des guides.
Scouts et guides de France.
J'ai dit skits et goûts. Ça marche. Skit. Écoutez, on va créer un nouveau mouvement de jeunes qui s'appellera les skits, d'accord?
Les skits.
Donc, les scouts et guides de France, c'est une association où, en fait, c'est un mouvement où il y a plusieurs associations à l'intérieur, c'est ça?
Alors non. Les scouts et guides de France, c'est une association, donc comme n'importe quelle association, le 1901, etc. La seule particularité, c'est qu'il y a 80 000 adhérents... dont 20 bénévoles,
okay.
Tranquillement. 20 bénévoles et cadres, je crois, ici. Avec. Et,
20 bénévoles
20 000 bénévoles et cadres.
Ok.
Et en fait, les scouts et guides de France font partie d'une fédération du scoutisme français qui est, en gros, la représentation de la France pour les organisations mondiales de scoutisme.
Oui, parce qu'il y a des scouts partout dans le monde, en fait.
C'est ça.
J'ai découvert qu'il y en avait même en Inde et tout.
Ouais, il y en a aussi, on y pense beaucoup, on pense beaucoup à eux dans ces moments-là. Les scouts en Syrie aident beaucoup aussi à la résistance contre l'État islamique.
Ok.
Donc c'est très cool pour eux, franchement, ils sont assez courageux de résister comme ça. Et donc le scoutisme français, c'est une fédération de 5, maintenant 6 depuis quelques mois, associations de confessions différentes. Donc tu as à peu près toutes les confessions et spiritualités qui sont représentées dans cette fédération-là.
Donc il y a, quoi ? Il y a la confession juive,
musulmane, protestante, catholique, du coup c'est les scouts et guides de France, laïque et bouddhiste, et j'ai oublié personne normalement, et les... oui, laïque. Je crois que c'est bon. Je suis désolée si j'oublie une association. Mais... je vous aime quand même.
Non, mais c'est quand même intéressant de savoir ça. Déjà, rien que la base de ça, voilà. Ça fait 5 minutes qu'on a commencé l'émission. Et il n'y a pas que des scouts catho. C'est quand même important. Genre, moi, dans ma tête, c'était que ça. Donc, alors, peut-être je suis seule à penser ça, mais j'espère que non, d'autres gens vont avoir une révélation de... Ah, mais non, en fait. Mais c'est fou. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu quelles sont les valeurs donc tu disais tout à l'heure qu'il y a un truc de paix, de aussi
autonomie.
D'éducation aussi à l'écologie, non?
Ouais, c'est ça. En fait, la vie dans la nature, du coup, aujourd'hui, en tout cas, ça te fait prendre une conscience écologique. Je pense que quand ça a été créé, c'était pas le but, parce que en 1907, écologie, bof. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de comment dire, de vivre avec son temps, mais tout en gardant une certaine sobriété, sobriété par rapport à la vie, de pouvoir vivre simplement. Ça passe aussi, en 2017, par se dire, je vais faire 3 semaines de camp et je ne vais pas être tout le temps sur Facebook, je vais pas être tout le temps sur mon téléphone, voire parfois les téléphones sont interdits par les chefs dans les camps parce que sinon ça coupe un peu le lien social et c'est pas top. Mais c'est de se dire ça, de se dire, je vais me doucher avec peu d'eau, je vais dormir sous la tente, je vais pas utiliser d'électricité, je vais tout cuisiner au feu de bois. Et en fait, on se rend compte qu'on peut vivre avec vraiment pas grand-chose. Et du coup, ça te fait un peu réfléchir, même les plus jeunes, ça les fait réfléchir sur leur façon de consommer. C'est pas mal là-dessus au niveau écologique. Après, les autres valeurs, t'as donc, du coup, l'éducation à la paix. Mmh. La vie en communauté, la vie en équipe est hyper importante dans le scoutisme parce qu'en fait du coup tu dors avec une équipe, tu dors en équipe donc avec généralement 5 ou 6 autres filles ou garçons, ça dépend de si tu es une fille ou un garçon, et du coup c'est des personnalités différentes, c'est des gens qui ont des centres d'intérêt différents et il faut que tu vives avec eux dans la vie de tous les jours Et surtout que quand tu fais un camp scout avec quelqu'un, clairement, tu le supportes 24 heures sur 24. Tu n'as pas le choix.
Apparemment. Est-ce que c'est dur ?
Ça peut être dur. Mais les chefs sont là pour éviter toute tension. Et c'est hyper... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a appris là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer quelqu'un, mais on peut ne pas avoir trop d'affinité avec quelqu'un et vivre quand même en communauté avec cette personne sans se taper dessus, sans avoir envie de l'insulter toutes les 2 secondes.
C'est plutôt un truc intéressant quand on vit dans le monde actuel, qui est le nôtre. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge minimum et un âge maximum pour faire partie des scouts ?
Alors, d'âge minimum, il y en a un. Tu peux commencer à être jeune chez les scouts et guides de France. Je vais parler surtout de mon association. Je suis désolée, je ne connais pas trop bien.
Je pense que c'est bien de préciser qu'on parle de celle-ci parce que c'est ton expérience.
C'est ça.
Comme dans tous les CSA qu'on aime, en fait, c'est pas un truc universel, mais c'est une bonne porte d'entrée, en tout cas.
Voilà. Donc, du coup, chez les scouts et guides de France, tu peux commencer à 6 ans avec les Farfadets. Quel nom génial. Petit message au national. Pourquoi vous avez enlevé les noms Parce qu'avant, les accompagnateurs farfadets s'appelaient les farfadultes. Et ils ont enlevé ça.
Ah, trop bien.
Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce truc-là. c'est trop cool, farfadultes. Donc, les farfadets, cool. Donc, tu peux commencer à 6 ans. Et après, âge maximum, il n'y en a pas, en fait. T'as des gens, ils sont cadres des SGDF.
Là, tu parles en chinois.
Cadre.
Oui.
Et SGDF, c'est l'abréviation de Scouts et Guides de France.
Très bien.
Et donc, t'as des gens, ils sont cadres dans l'association. Ils ont genre 60 ans et... Enfin, il n'y a pas d'âge vraiment pour
C'est marrant que ça soit du coup étiqueté mouvement de jeunes, En fait, le mouvement jeune, c'est une association qui va aider les jeunes à gagner en autonomie,
voilà,
et à prendre la vie en communauté, etc.
Qui va éduquer des jeunes, ouais.
Ok.
Mais après, je veux dire, c'est pas parce que tu n'es plus jeune que tu ne peux pas faire de scoutisme. Parce que du coup, tu as tout le rôle des chefs aussi. Les chefs sont accompagnés par des gens qui sont du coup plus vieux que les
plus
chefs,
vieux, d'accord, okay.
Qui sont aussi accompagnés par des gens qui sont beaucoup plus
la sagesse
vieux
passe.
Que les chefs.
Il y a des strates de sagesse.
Voilà, c'est ça. C'est...
Ok. Est-ce que justement on peut expliquer un peu les tranches d'âge donc des farfadets jusqu'à
après moi c'est fini.
C'est fini, ok. Donc des farfadets aux compagnons.
Voilà,
oui, j'ai retenu. Et est-ce qu'il y a des activités précises en fonction des tranches d'âge?
Ouais, il y a des gains d'autonomie du coup.
Ok.
Logiquement. Donc les farfadets c'est les 6-8 ans, ils sont accompagnés par leurs parents donc c'est tout doux le scoutisme. Ouais. Ils font beaucoup de jeux et leur camp, c'est un week-end campé.
D'accord.
Parce que déjà, quand t'as 6 ans, un week-end campé, c'est déjà assez ouf,
c'est
je
beaucoup,
pense,
ouais.
Pour toi.
Mais c'est campé avec les parents ou...
Oui, campé avec les parents. Il y a deux parents responsables, généralement, par unité. Ensuite, c'est les louveteaux Jeannette, donc 8-11 ans. Les louveteaux, ils sont avec des chefs, du coup, ils sont plus avec leurs parents. Ils font un camp d'une semaine. Donc déjà, c'est quand même pas mal quand t'es 8 ans de faire un camp d'une semaine. Et au niveau de... C'est toujours aussi beaucoup par le jeu. Parce que, clairement, entre 8 et 11 ans, t'as pas l'autonomie nécessaire pour... Pour faire des activités, enfin des projets, etc. Ensuite, t'as les scouts guides, donc les 11-14. Là, ils commencent à être pas mal... ils font des petits projets, qu'on appelle des aventures. Et en gros...
Trop bien.
Ils choisissent un thème... Donc, par exemple, mes jeunes ont choisi le thème de la solidarité et du sport. Donc, du coup, ils ont choisi de faire une initiation au sissi-foot. Donc, c'est le foot pour les non-voyants.
Oui.
Donc, voilà, ce n'est pas des trucs qui vont révolutionner le monde, mais c'est une manière de, eux, les sensibiliser à des sujets qu'ils ne connaissent pas.
Alors, est-ce qu'ils choisissent en fonction de, je sais pas, 4-5 sujets que vous leur proposez en tant que chef?
Ouais,
ou c'est
y
eux
en a...
qui...
C'est la proposition pédagogique en...
Okay.
qui fait ça, et il y en a 7 si je dis pas de bêtises. J'espère qu'il n'y a pas mes formateurs qui regardent, parce que je suis censée avoir appris ça, mais
chut, on ne
dira pas.
Ne faites pas de remarques quand vous la voyez.
Si tu es formateur tech, je suis désolée. Et donc les scouts guides partent en camp pendant 2 semaines, et il y a quelque chose qui s'appelle l'explo, qui en gros consiste à faire une rando en équipe pendant 2 jours. Donc, ils partent tout seuls en autonomie avec une carte. On leur a tracé un itinéraire au préalable. Et on leur dit, voilà, vous avez... généralement, c'est entre 10 et 20 km à faire à pied. C'est amplement suffisant pour des jeunes. Et on leur dit, vous avez tout ça à faire. Vous avez une journée pour le faire. Il faut qu'à 18h, vous soyez à tel lieu. Et les chefs font des tours un peu entre...
Oui, pour vérifier quand même.
Voilà, c'est ça. En gros, quand t'es chef, l'explo, ça consiste à faire des tours en voiture. Entre les équipes.
Pour vérifier que tout va bien.
Et à faire ça va, c'est bon, tu veux. Et donc ça, voilà, c'est le premier gain d'autonomie. Après, il y a les pionniers Caravelle, les 14-17. Là, ils font des projets assez cool. Banque alimentaire, ils sont... Là, dernièrement, à Rennes, ils ont fait une activité auprès de migrants. Et ils ont fait aussi une activité avec des musulmans qui fêtaient la fin du ramadan, du coup.
Ok.
Donc voilà, toujours la vie d'équipe, donc des projets aussi toujours en équipe. Ils partent en camp pendant généralement 3 semaines, et ils peuvent commencer à partir en camp à l'étranger s'ils le veulent. C'est pas obligé. Il y a beaucoup de gens qui le font quand même, mais moi perso, je suis pas partie en camp à l'étranger en étant pio, et je le vis très bien. voilà.
Et après, du coup,
les compagnons, c'est les 17-21, et là, du coup, t'es juste par équipe. T'es plus du tout avec d'autres équipes, parce qu'avant, t'es en unité, donc t'as plusieurs petites équipes qui sont dans une grosse unité.
Et donc, tu as plusieurs chefs, tu as un chef par équipe?
Généralement, ouais. L'idéal, c'est ça. Mais, et donc, les compas, tu as un couple qui t'accompagne, qui s'appelle les accompagnateurs compagnons.
Formidable, c'est facile, du coup, à retenir, c'est bien.
Et l'idée, c'est que tu choisis, pareil, tu as des pistes d'action, donc des thèmes, et tu choisis en équipe de dire, bon, voilà, on veut agir dans tel. Genre par exemple, on va agir dans l'éducation et l'enfance. Du coup, on va faire un projet avec une association. C'est généralement avec une association où on part pas comme ça tout seul en projet, oui. Genre allez,
on va faire ça alors qu'on n'y connaît rien.
Voilà,
super.
C'est ça. L'idée, c'est d'avoir des gens qui s'y connaissent un peu. Et voilà. Et du coup, tu fais ton projet en équipe. Et alors, du coup, les compagnons, c'est assez particulier au niveau de toutes les autres tranches parce que les autres années, c'est sur 3 ans. Les compagnons, on appelle ça des temps parce que un temps n'est pas obligé de durer 1 an parce que D'accord. Parfois la vie fait que
parce que
chacun a ses études et que c'est le moment du post-bac, donc clairement la vie fait que tu n'as pas le temps de faire tout en 1 an.
Ok.
Donc du coup, premier temps, tu constitues ton équipe, tu pars, tu fais un projet, un expériment du coup sur l'année, un de plus si tu veux, mais ouais. L'idée c'est d'en faire un. Et tu pars en camp en France pour faire toujours un projet avec une association. Tu pars entre... Il n'y a pas vraiment de durée, ça dépend surtout de la disponibilité de l'équipe. Et ensuite, deuxième temps, tu constitues ton projet, ce qu'on appelle l'expériment long, parce que du coup, il dure 1 mois.
Okay.
Et l'expériment long, généralement, on le fait à l'étranger. Il y en a qui le font en France. C'est une très petite partie des gens, la majorité le font quand même à l'étranger. Et l'idée de l'expériment long, c'est pareil qu'un expériment... Enfin, c'est pareil qu'un projet tout simple, hein. Tu choisis une association, tu es partenaire, tu choisis ta piste d'action.
Oui, c'est juste que ton projet est plus long et plus poussé, quoi.
Plus conséquent, et tu t'auto-finances, du coup, c'est ça qui rend le truc un peu compliqué. C'est que tu as un budget et tu récoltes tes petits sous tout seul.
Et ça, c'est intéressant, mais on y reviendra un peu plus tard, parce que tu m'as parlé des projets que toi, t'avais fait, donc là, t'as 18 ans,
ouais.
Donc t'as déjà fait un premier projet long l'année passée.
Ouais, j'ai fait un expériment court du coup, parce que c'était en France.
Expériment court et un expériment long cette année.
Voilà, c'est okay. Ça, cet été.
Je vais y arriver.
Dans tout pile un mois d'ailleurs, c'est la coïncidence d'aujourd'hui, c'est que dans tout pile un mois, on part.
Ah, oula, trop bien. Donc ça veut dire que les préparatifs sont on top. Et à quel âge, est-ce qu'il y a un âge limite où tu peux pas débarquer chez les scouts? Moi, si j'ai 25 ans, non, 24, j'ai 24 ans. Je sais plus. J'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Est-ce que je peux débarquer chez les scouts sans jamais avoir fait tout ce que toi, tu as pu faire ouais. Parce que toi, tu as commencé à 10 ans. Donc, ça fait 8 ans que tu es chez les scouts.
Ouais. Et il y en a encore qui ont commencé à 6 ans. Donc,
waouh.
C'est-à-dire que tu peux commencer à n'importe quel âge. Du moment que tu arrives, tu es motivé, on te propose des missions. Et donc, généralement, du coup, quand tu connais pas grand-chose au scoutisme, l'idéal, c'est de commencer en tant que chef. Parce que du coup, ça va vraiment te...
T'apprends, quoi.
C'est ça. Il y a des échelons au-dessus, des groupes et des chefs et cheftaines. Mais la cible quand même de l'association, le cœur de l'association, c'est pas les cadres, c'est les jeunes, quoi.
Oui.
Du coup...
Oui, si tu rejoins les scouts, c'est pas pour faire de l'accompagnement de personnes qui ont déjà 20 ans.
Ça peut être possible aussi, parce que par exemple, t'as des gens dans leur métier. Ils sont formés pour, par exemple, des gens qui sont RH... on leur donnera par exemple plus facilement des missions d'accompagnement. Mais globalement...
Mais oui, globalement, si tu as mon âge et que tu veux rejoindre les scouts, c'est parce que tu as envie aussi d'intégrer un esprit et d'aider des plus jeunes que toi.
De découvrir le scoutisme d'éduquer des jeunes à faire plein de trucs trop cool, de les accompagner. Et aussi, toi, du coup, ça t'apporte des choses, je pense, quand tu es chef, de bâtir tes projets avec tes jeunes. Je pense que c'est pas mal au niveau quand t'as jamais fait de projet en autonomie de ta vie, d'arriver comme ça et de faire des petits projets avec tes jeunes, c'est déjà super cool.
Puis t'as quand même plusieurs personnes à gérer, donc c'est quand ça. Même impressionnant, je pense, quand t'as jamais fait ça. J'avais une question que j'ai oubliée. Ça va me revenir, je ne sais plus. Bah, très bien, passons à la suivante alors, c'est pas grave. Toi, t'as commencé les scouts à 10 ans.
Ouais.
Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé pour toi? Comment t'as découvert les scouts?
Ouais, alors c'est assez... Je tiens à préciser que mon histoire est... Enfin, mon histoire, c'est tellement genre... comment ça s'appelle? C'est mon choix. Son histoire. Oui, donc... moi, j'étais dans une paroisse à Nantes. Je faisais du catéchisme, comme beaucoup d'enfants dont les parents sont croyants. Je faisais du catéchisme super cool, je fais ma première communion en CM2, mais sauf qu'après le catéchisme ça s'arrête en CM2 et du coup on avait un petit flyer avec marqué que faire après le catéchisme et c'était une après-midi avec tout plein d'associations de jeunes catholiques Donc, du coup, tu avais le MEJ. Le MEJ, c'est le mouvement ecclésiastique des jeunes. C'est une association aussi de jeunes catholiques. Il y avait d'autres mouvements scoutisme. Et il y avait un monsieur plutôt. c'est quand même le père d'une amie. Un monsieur qui présentait le scoutisme, était en chemise violette. Il y avait plein de photos de camp derrière lui. Donc, je suis allée le voir. Moi, j'étais déjà habituée au camping parce que j'en fais depuis que je suis toute petite avec mes parents. Donc, en fait, je me suis dit, OK, cool, c'est du camping, mais avec des copains. Donc,
Doublement mieux.
Doublement mieux. Sans tes parents et tout.
C'est ça, j'ai retrouvé ma question. En fait, c'est un peu les camps, comme tu les racontes, genre quand tu pars une semaine ou deux semaines, c'est un peu les colonies de vacances. Enfin,
c'est ça.
Je suppose que tu n'en as jamais fait, du coup.
Si, j'en ai fait une.
OK.
Et puis après, j'avais des camps. Et les colonies, c'est...
En fait, t'es un peu moins autonome.
Voilà, c'est ça, t'es un peu moins autonome. Et il y a l'aspect aussi que les animateurs sont payés, alors que les chefs ne le sont pas.
D'accord.
Et ça change un peu la relation que t'as avec...
C'est vraiment un truc d'envie et de...
Bah, c'est ça, il faut être motivé pour partir 3 semaines avec 30 gamins.
Courage.
Yes. Et du coup, donc je suis allée parler avec ce monsieur, il m'a laissé son adresse mail, et j'étais en 6e. Et j'ai envoyé un mail en disant « Ouais, je suis intéressée pour faire du scoutisme, là, là, là. » C'est hyper rare, les jeunes qui se proposent d'eux-mêmes. D'habitude, c'est plutôt les parents qui contactent. Et là, moi, j'étais toute seule à envoyer un mail de mon ordi. Puis je suis descendue dans le salon, j'avais « J'ai envoyé un mail pour les scouts. »
Et comment ça se passe une fois que tu as envoyé ton mail et t'as recontacté
Ouais, il m'a recontacté, il m'a proposé de venir à la journée de rentrée. Donc, je suis venue. Il y a trois filles de mon âge qui sont venues me voir tout de suite... Hyper accueillante, etc. Et puis après, j'ai rencontré mes chefs, du coup. Et puis après, tu commences l'année tranquillement, tu fais des activités, ensuite tu fais ton premier week-end campé, etc., etc. Et puis après, j'étais dedans.
Et donc, comment ça se passe? Les activités, c'est comme si tu avais des activités, le mercredi après-midi
Ouais, sauf que c'est le week-end, généralement.
Ok.
C'est tu te réunis, tu fais un jeu, généralement, dans l'après-midi. Ça dépend aussi de ta tranche d'âge, mais les louveteaux vont faire beaucoup de jeux. Les scouts de guide, il y a quand même des moments où tu te poses et tu parles du projet d'année, du coup. Ouais. Chez les scouts de guide, il y a aussi les rôles, en fait. C'est hyper important. Chaque personne dans l'équipage, parce que c'est la terminologie, c'est très...
Par exemple, avant de parler des rôles de l'équipe, comment est-ce que ça se crée une équipe? Est-ce que c'est par affinité ou c'est juste...
Il y a plusieurs
vous
façons.
Vous êtes 5 à être arrivés, donc on va vous mettre ensemble.
Ouais, il y a plusieurs façons. Ça peut être... L'idée, c'est de faire des équipages équilibrés. Enfin, des équipes équilibrées de toute façon. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre tous les anciens d'un côté, tous les nouveaux de l'autre. Tu ne vas pas mettre, du coup, comme c'est sur 3 ans les tranches d'âge, tu ne vas pas mettre tous les premières années ensemble et tous les troisièmes années ensemble. La seule règle, c'est que c'est garçon-fille séparé. Parce que logique pure, quoi. Parce que quand tu as 12 ans, tu ne te mets pas garçon et fille dans la même tente, sachant que tu te changes dans la tente, tu vas à la douche avec ton équipe.
Oui, donc c'est un peu tendre le bâton pour...
C'est ça.
On connaît, les hormones. À les 12 hormones. Ans.
Et du coup, ouais, donc les équipes, c'est les chefs généralement qui les font. Après, tu as toujours le droit, toi, en tant que jeune, de dire là, non, je me sens pas à l'aise avec ces gens-là. Je préfère être avec eux. Par exemple, c'est le cas.
Oui, c'est ce que j'avais demandé.
Ma petite sœur, ça nous est arrivé. En fait, les chefs n'aiment pas trop les fratries ensemble. Et comme on a 2 ans d'écart, généralement, on a toujours été dans des équipes séparées. Et là, chez les pionniers Caravelle, on était dans 2 équipes de filles différentes et ça se passait pas super bien pour elle de son côté, parce qu'en fait, moi, j'étais avec ses 2 grandes copines du scoutisme de l'autre côté, du coup. Et on a demandé au chef, on a déjà été en équipe, on avait déjà été en équipe sur un camp d'une semaine, en dehors de notre groupe. Et ça s'était super bien passé, on avait beaucoup rigolé, on s'entend très bien avec ma sœur, donc nous, on voyait pas de problème. Et on a demandé au chef, est-ce que ça vous dit...
Oui, le problème pour eux, c'est plutôt le fait que vous soyez ensemble tout le temps et que vous coupiez
voilà,
peut-être
des
autres.
Voilà, c'est ça. Et le fait aussi qu'on puisse s'engueuler.
Ouais.
Du coup, sur le camp, sur 3 semaines, on s'est engueulé une fois, quand même.
Ça va.
Franchement, ça a duré une heure et puis après, c'était fini.
Respect, parce que moi, je vois ma meilleure amie et sa sœur qui ont 2 ans d'écart aussi et c'est pas la même limonade, tout de suite.
Mais ça nous a vachement rapprochés, justement, ce camp-là. Ouais. Depuis, on est hyper proches, si tu me regardes. Coucou, Maël. Je sais pas si elle est là ou pas, mais...
Et du coup, comment ça s'organise C'est quoi les premiers trucs que tu as appris quand t'es arrivée, toi?
Ouais.
Est-ce que, par exemple, il y a la loi scout,
oui.
Si je me trompe pas.
Oui, il y a la loi, il y a la promesse, ouais.
Et donc ça, c'est des trucs que t'apprends direct ou ça vient au fur et à mesure
En fait, la promesse, ça dépend. Il y a des gens qui voient ça plutôt comme la clôture de ta première année.
Tu peux expliquer ce que c'est la promesse ?
Ouais, la promesse, c'est un engagement qui consiste en gros à dire, voilà, il y a la loi scout, à dire, ok, moi, je crois en ces valeurs-là, je veux aller plus loin dans le scoutisme, je veux donner le meilleur de moi-même à mon groupe, à mon unité. Du coup, je promets sur la loi scout que je vais faire de mon mieux et que je vais avancer en équipe et que je vais, comment dire, donner le, donner le meilleur de moi-même. Et,
C'est un peu comme signer les règles, le règlement intérieur d'une asso. Oui, je suis d'accord avec ça. D'accord, très bien, je signe.
C'est ça. Et puis après, du coup, quand t'es petit, c'est surtout ça. Quand t'es grand, du coup, c'est l'occasion aussi de faire le bilan de ce que t'as vécu avant de faire ta promesse, du coup. Quand t'as vécu déjà pas mal d'années de scoutisme, tu fais un peu une rétrospective.
Alors, tu l'as fait une première fois et tu peux la faire une deuxième fois ?
Tu l'as fait à chaque tranche d'âge.
Ah, à chaque tranche d'âge, ok.
Voilà, donc tu fais donc t'arrives au louveteau, tu fais ta promesse louveteau, tu arrives au scout guide, tu fais ta promesse scout, tu arrives au pionnier, tu fais ta promesse pionnier, ainsi de suite. Et quand t'es chef, en revanche, tu fais juste un engagement. Enfin, quand t'es adulte, en fait, du mouvement, que tu sois chef ou une autre mission dans le mouvement, tu fais un engagement et c'est bon.
Ça suffit.
Oui. C'est bon. Tu t'es engagé en tant qu'adulte dans le mouvement, c'est bon quoi. T'as pas besoin de t'engager dans chaque mission.
Oui, alors que c'est vrai que quand t'es adolescent, il y a plusieurs phases et forcément il y a peut-être des phases où t'es là-bas. En fait, non, j'ai plus envie.
Ce qui est cool, c'est que chaque loi, du coup, est adaptée à la tranche d'âge. En fait, il y a une loi scout universelle et il y a plusieurs lois qui ont été adaptées du coup aux tranches d'âge, parce que tu promets pas la même chose quand t'as 17 que quand t'as 8 ans, quoi, clairement.
Par exemple, toi, celle des compagnons, c'est quoi
je l'ai pas encore fait.
Ok.
Parce qu'on n'a pas trouvé le temps. Mais on va la faire du coup pendant notre expériment long cet été. C'est prévu, parce qu'en fait, on a juste pas réussi à se réunir tous les 6 pour faire la promesse.
Première année d'études supérieures, c'est compliqué.
Voilà, c'est ça. On est tous un peu partout en France. Et du coup, tu promets d'être c'est très ça fait très comment dire bisounours, mais d'être citoyen du monde. Tu promets de vivre en équipe, de pas laisser les autres derrière soi, d'être ouvert aux autres, de pas oublier aussi la dimension spirituelle et la foi si t'en as une. C'est vraiment la foi si t'en as une, c'est hyper important, ça.
C'est pas le premier truc sur la liste, quoi.
Non, c'est ça. On n'oblige clairement pas les gens à croire. Et c'est-à-dire que ta promesse, si tu crois en Dieu, tant mieux, tu la confies à Dieu, c'est cool. Si tu crois pas en Dieu, elle est tout aussi importante et tu la confies à ce que tu veux.
Oui. Alors, toi ou peut-être des gens dans ton unité ?
Ouais, dans mon équipe, du coup, dans ton équipe.
Maintenant, vous comptez. Oh là là, j'ai du mal à suivre, mais j'ai
c'est une petite gymnastique à faire.
Toi, dans ton équipe, il y a des gens qui ne sont pas croyants ?
Ouais, on est 6. Sur 6, je dirais qu'on est 3 croyants et 3 non-croyants.
D'accord.
Mais après, on est 3 non-croyants avec quand même une éducation plutôt catholique. Ouais. Ce qu'on différencie bien ça aussi, t'as l'éducation t'as été à l'église quand t'étais petit parce que tes parents t'y emmenaient et maintenant tu fais ce que tu veux donc t'y vas plus. Il y a les gens qui n'ont vraiment jamais fait ce genre de truc-là. Ouais,
de type, moi, par exemple, je ne suis même pas baptisée. Est-ce que je peux quand même venir chez les scouts ?
Oui.
Ouais, c'est cool, merci, c'est sympa.
On ne demande pas de certificat de baptême. je trouve ça dommage, perso, de demander des certificats de baptême. Mais après, il y a d'autres associations qui le font. Mais clairement, pas chez les scouts et guides de France. Sinon, on n'aurait pas 80 000 adhérents, je pense.
Oui.
Ça serait compliqué.
Écoute, on va faire une petite pause, le temps de boire de l'eau et de s'hydrater, se mettre devant un ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud. Est-ce qu'on a chaud ?
On a très chaud.
Beaucoup. On fait une pause, qu'est-ce qu'on écoute ? Malo, et le morceau c'est I Believe, et on revient tout de suite. Ciao. Ouh,
c'est vrai, je ne t'ai pas vu grandir avec moi. J'ai vraiment été voulu. Un silence bien noir. Et pourquoi ne m'as-tu pas envoyé des lettres? J'ai pourtant bien attendu le facteur à la fenêtre.
Oh, I believe in you, and I believe in me. What good in this big trust is it? Yes, I believe in you, and I believe in me. Is it hard to love your own son? Questions m'ont hanté, ton visage mystérieux. Je n'ai jamais vraiment su la couleur de tes yeux. Que reste-t-il entre nous, à part un lien de parenté? Avons-nous déjà vraiment essayé de nous aimer? Oh, I believe in you, and I believe in me. What good in this big trust is it? Yes, I believe in you, and I believe in me. Is it hard to love your own son? Si facile de partir en rusté, t'es si difficile de rester. Pourquoi est si facile de partir en rusté, t'es si difficile de rester?
C'était Malo, I Believe. C'est bien, hein, moi je devais l'avoir dans la tête, le ou de la fin, je pense. Je suis toujours donc avec Solène et on parle de scoutisme. Et cette fois, on va rentrer dans le vif du sujet de ce que tu fais maintenant en tant que compagnon.
Ouais.
Et de ce que tu as fait surtout. Mais en fait, c'est vraiment quand tu m'en as parlé, j'étais là, mais c'est trop bien, j'aimerais trop faire ça. Alors, expliquons un peu. Donc, les compagnons, on a expliqué que vous avez des projets à long terme. Comment ça se passe pour choisir le projet?
Alors, ça dépend vraiment des équipes, parce qu'il y a autant d'équipes qu'il y a de, enfin, il y a comment dire, d'associations de personnes. Clairement, on n'est pas du tout, il y a pas de généralité. Il y a des conseils pour, c'est ce qui s'appelle la proposition pédagogique.
Je sens ça que fait, la proposition pédagogique, ça ne t'emballe pas.
Ah non, si, c'est super cool, mais c'est juste que ça fait très lourd, comme nom, quoi. C'est en formation, on te dit, c'est pas une pédagogie, c'est une proposition pédagogique.
Ok.
Ça veut dire que tu peux la suivre comme tu ne peux pas la suivre. Enfin, comme si tu n'as pas envie, tu ne la fais pas. Donc du coup, nous, en tout cas, personnellement, on a fait une sorte de... Comment ça s'appelle ? Une sorte de classement. En fait, on s'était dit, on arrive en réunion, on a tous un projet. Une idée de projet dans un pays différent, avec des projets qui nous donneraient envie de faire.
Donc alors, attends. Alors, on rembobine vite fait. Les compagnons, donc, c'est normalement 3 ans. Alors, c'est plus ou moins long en fonction. Donc, la première année, c'est un projet en France.
Ouais.
La deuxième, c'est un projet à l'étranger.
À l'étranger. Et la troisième, en fait, c'est une relecture, du coup, de toutes tes années de scoutisme.
D'accord.
Et un engagement dans l'idéal, soit chez les Scouts et Guides de France, soit dans une autre association.
D'accord.
En fait, et c'est ce qui s'appelle un peu l'envoi. C'est-à-dire que maintenant, t'as appris avec les Scouts... Bah, tu vas donner de ton temps...
À une autre asso.
Voilà, à une autre asso. Le mieux, c'est de faire ça sur une autre asso. Après, les gens n'ont pas forcément le temps, donc le font aussi chez les Scouts et Guides de France. Mais en gros, c'est ça. Tu vas ah oui, aussi, tu témoignes de ton projet, du coup, que tu as fait. Parce que logiquement, quand tu as fait un mois à l'étranger, avec une association, tu
dois avoir
t'as envie d'en
dire.
Parler, voilà, c'est ça. Clair. Et t'as envie de convaincre les autres. Moi, c'est bien, je fais du témoignage avant d'être partie.
Voilà,
c'est
exactement,
encore mieux.
C'est bien. Et on pourra faire un post, tu sais, genre après coup, si tu veux, on pourra faire un témoignage de je suis partie. Attendez, on va pas dire encore où est-ce qu'elle
petit
part.
Petit article sur MAD.
Ça va être, c'est trop bien, j'ai trop envie de faire ça, mais peut-être je suis un peu une hippie, j'en sais rien. Donc, la première année, vous avez fait quoi?
Alors, la première.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Première année, on est parti à TV, en Charente-Maritime. C'est bien, avec les scouts, tu découpes tous les petits bleds de ton cher pays qu'est la France. Donc on est parti à TV, on a fait de la construction, de l'éco-construction. Donc on a aidé quelqu'un à faire de la construction, donc avec de l'éco-construction, avec de la paille, de la terre. Enfin, c'était hyper fun à faire...
Du coup, t'as dû apprendre plein de trucs.
Ouais, on a appris pas mal de techniques on mélangeait la terre, le sable, l'eau pour faire de l'enduit. On mélangeait avec la paille aussi pour faire de l'enduit. On étalait l'enduit à main nue sur le mur. On faisait des batailles de boue aussi.
Forcément. Du coup, ça dérape.
Ça dérape forcément. et puis, donc ça, c'était notre première partie de projet. Et notre deuxième partie, c'est comme on vient de Nantes et qu'on était en Charente, bah, on s'est dit, on va rentrer à vélo. Donc on est partis tous les six à vélo pendant une semaine et on a fait du coup Théré, donc qui est en dessous de La Rochelle, jusqu'à Nantes en une semaine en vélo.
Trop bien.
C'était sympa. C'était dur, mais...
Ça doit être compliqué quand même.
Bah, quand tu fais pas de vélo, c'est-à-dire qu'on avait quand même trois cyclistes hyper bons dans l'équipe et on était deux à être un peu moins bons. Du coup au début c'était un peu dur, j'ai un peu eu des courbatures la semaine d'après. Je marchais vraiment comme une mamie.
Laissez-moi tranquille, mon corps se repose, il a besoin de se régénérer.
C'est ça.
Ouais, je comprends. Et donc là, cette année, vous partez en Mongolie.
Oui.
C'est trop bien.
On va partir dans des petits bleds de Mongolie. Ouais. Tellement petits qu'il n'y a pas d'adresse de là où on va. C'est-à-dire que l'adresse, c'est le village.
Le village.
La province. Mongolie. C'est tout là. C'est fin de l'adresse. Du coup, ouais, on part... Je ne sais pas du tout prononcer le mongol, donc à Khasha, c'est à Khungokhan, un truc du genre, ça s'écrit Khunyokhan, je crois, et on va faire de la sensibilisation à la permaculture du coup chez les nomades, parce que pour être dans des six petits bleds, c'est pas la population urbaine qui est là-bas. Ouais. Et donc ouais, dans la première partie, on va sensibiliser, du coup, on va faire de la permaculture aussi. Enfin, en fait, on fait et de la sensibilisation et de la permaculture en elle-même, sinon c'est bof.
Oui.
Donc la première partie, ça va être surtout très pratique. Avec les nomades, on va rester une semaine. Et la deuxième semaine, enfin les deux autres semaines d'après, du coup, on va faire la sensibilisation. C'est compliqué à dire comme mot.
Oui, je comprends.
Auprès des jeunes d'un collège... environnant.
De là-bas, ok.
Du coup, c'est ça qui est cool, c'est qu'on fait un projet avec des jeunes, donc pour les jeunes, quoi.
Mais ça reste un peu dans l'esprit
scout.
Voilà,
ça reste dans l'esprit scout, c'est-à-dire qu'on ne sensibilise pas les adultes, on sensibilise vraiment les jeunes. Et donc là, pareil, par plusieurs petites activités, on va essayer de leur faire découvrir ce que c'est la permaculture et pourquoi, pour eux, ça peut être bénéfique.
Oui.
Puisque si on y va, c'est parce qu'il y a une utilité, c'était vraiment une volonté dans notre... Dans notre projet, on s'est dit, peu importe où on va, on veut faire un projet qui soit durable et utile aux populations. On ne va pas construire une école parce que, alors qu'il n'y a pas besoin d'école et alors qu'il n'y a pas d'enseignants à embaucher derrière. Ça, c'est bof, c'est ce qu'ils appellent du volontourisme et c'est à éviter quand tu pars en projet solidaire.
Donc justement, comment est-ce que tu disais tout à l'heure que vous avez des associations avec lesquelles vous travaillez. Donc là, vous avez une asso qui est directement là-bas en Mongolie ou qui est en France et qui travaille là-bas.
C'est en fait, c'est une association franco-mongole. Donc tu as un siège en France, un siège en Mongolie. Et là, pour l'instant, le président de l'association avec qui on était en contact a été donc toute la première partie de l'année en France. Et il est parti en mars, si je dis pas de bêtises, en Mongolie. Et là, il vient de revenir des steppes hier. Du coup, on peut encore, on peut recommuniquer par mail parce que dans les steps, c'était un peu compliqué de communiquer par mail. Et après, voilà, le projet, il se construit en accord avec l'association, du coup. Là, c'est l'association qui nous a proposé, on a dit OK. Parce que nous, c'était quelque chose... on avait déjà été sensibilisés à la permaculture dans le premier projet. Donc, on s'est dit, OK, permaculture, ça nous tente et on y va.
Et, est-ce que peut-être on explique pour les gens ce que c'est la permaculture, ouais. Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas.
Ouais, c'est... si vous avez vu le film Demain, c'est toute la première partie du film Demain, en gros.
Et si vous ne l'avez pas vu, il y a une très bonne interview de Cyril Dion, le co-réalisateur qui est sur mademoiselle.com, je vous mettrai le lien. Et ouais, c'est un super film Demain, qui est un film documentaire, et donc la permaculture.
C'est du coup un type d'agriculture biologique qui en fait consiste à recréer un environnement où les plantes sont un peu autonomes. Comment expliquer ça ? C'est juste les plantes font... elles s'entraident entre plantes, en fait.
En fait, la permaculture... Alors, il y a vraiment un truc, pas scientifique, mais une étude de comment les plantes réagissent.
Voilà, c'est ça.
Quelles plantes amènent quoi. Par exemple, un autre truc qu'il y a sur Mademoiselle, il y a Esther qui a fait un article sur... une jeune femme qui s'appelle Ophélie, qui est partie, qui a arrêté son job à Paris. Elle était, je crois, dans la pub et elle est partie faire une formation en maraîchage et en permaculture. Donc elle a commencé à faire des vidéos, etc. Je vous mettrai le lien aussi sur le chat. Et pourquoi je parle de ça ? Oui, elle, à un moment donné, elle fait des vlogs où elle raconte un peu ce qu'elle fait. Et elle dit, là, par exemple, on va planter une rangée où il y a des maïs. Comme les maïs, ils vont haut. Ils vont faire de l'ombre.
Voilà, c'est ça, pour les autres plantes.
Qui vont faire pour une autre plante. Et puis, il y a une autre plante, c'est des courges. Du coup, elles ont toute la place en bas parce que les maïs, ça pousse en haut. Et je sais plus, c'est hyper... Il y a un espèce de truc où il faut faire un Tetris de plantes, quoi.
En fait, c'est que naturellement, si tu vas dans la forêt, les plantes, elles se mettent... en fait, il n'y a personne qui... Comment dire ? Il n'y a personne qui les plante, les plantes.
Oui.
Du coup, très clairement, l'idée de la permaculture, c'est de vraiment laisser les plantes dans un ordre qui est quasiment le même que si c'était la nature qui l'avait fait, en fait, que si elle s'était mise naturellement comme ça. Et en fait, ça intéresse les nomades, du coup, dans les steppes, parce que le sol gèle énormément, ça s'appelle le dzud.
Le dzud ?
Le dzud, c'est le gel des steppes,
okay.
Tout simplement. Et du coup, l'idée, c'est de trouver justement l'agencement qui permette que, malgré le dzud, les plantes continuent de pousser, et en tout cas au mieux. Donc voilà, c'est à peu près ça la permaculture. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a déjà des bénévoles qui sont sur place en Mongolie pour préparer le terrain. Okay, donc elles sont déjà en train de faire... les plantations, en fait, nous on va arriver, les plantations seront déjà faites, ce sera plutôt de la récolte qu'on va faire.
D'accord.
Donc en fait, on va récolter avec les jeunes et ensuite on va leur faire des petites activités pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait comme ça et pas comme ça. Et l'idée, c'est qu'après, du coup, les nomades vendent les fruits, les légumes et les fruits qu'ils récoltent. Et comme ça, ils sortent de la précarité, parce qu'il y a quand même une communauté nomade qui est très précaire en Mongolie. Ouais. Parce que conditions climatiques, etc. Pardon.
Je suis sur le chat, je mets les liens des articles.
Non, c'est une certaine Pénélope Bechstein qui raconte des bêtises.
Voilà, il y a tous les copains de Solène qui sont là. Et donc, pour ne pas la déconcentrer, j'ai décidé de ne pas montrer le chat, parce que je vous vois faire des blagues, et du coup, après, elle perd ce qu'elle dit.
C'est ça. Donc, les bénévoles sont déjà sur place. Pour planter les fruits, les légumes, etc. Donc la communauté mongole est super précaire parce que du coup les conditions climatiques, et en fait il y a un exode rural, et sauf que la grande ville de la Mongolie, c'est la capitale,
et c'est tout. Oui.
C'est le seul aéroport de la Mongolie d'ailleurs. Et en fait les nomades qui arrivent ont pas de qualification pour bosser dans le secteur tertiaire, donc finissent dans des bidonvilles, et ça c'est vraiment pas cool. Donc, l'idée, en gros, c'est de permettre aux nomades de retrouver un niveau de vie assez correct pour ne pas avoir à bouger dans les bidonvilles.
D'accord, je vois. Et parce que, en fait, c'est quoi les problématiques c'est-à-dire que comme il y a ce fameux gel, eux, ils peuvent pas faire...
C'est ça, ils cultivent très mal.
D'accord.
En fait, okay. C'est ça, ils cultivent hyper mal. Et du coup, à la base, c'est une population semi-nomade. Donc, l'hiver, ils sont plutôt justement nomades. Et l'été, comme c'est la saison pour cultiver, ils cultivent et ils essaient
de rester sur place. D'accord.
Donc c'est et après, il y a aussi l'élevage, etc. Mais c'est pareil, si tu as du gel, l'élevage, c'est toujours un peu galère à faire aussi. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que... Parce qu'il y a tout un folklore avec les nomades qu'il n'y a pas avec les citadins.
Ouais.
Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est de conserver la tradition nomade pour que ces populations, elles perdurent et que ce soit pas... Ça fait un peu altermondialiste, ce que je dis, mais...
Bah non, mais je pense que c'est important aussi. C'est
comme en France, si tous les agriculteurs finissaient par venir en ville, y aurait un petit problème quand même, parce qu'on est un pays hyper agricole et que si tous les agriculteurs finissent en ville, c'est qu'il y a vraiment un problème environnemental, quoi.
Et je pense qu'il y a un truc intéressant aussi avec la permaculture, c'est que ça permet de cultiver beaucoup de plantes différentes, mais sur un plus petit terrain. Comme chaque plante s'entraide un peu... Par exemple, il y en a une qui va, repousser les moucherons parce qu'elle envoie des odeurs qui ne plaisent pas aux moucherons. Et peut-être que ça va aider certaines autres plantes à côté qui, d'habitude, se font attaquer par les moucherons ou les limaces ou des trucs comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a une espèce de trucs importants aussi dans la permaculture, c'est que ça te permet de cultiver plus de trucs et d'être autonome sur plein de...
Voilà, c'est ça. Et tes rendements, en fait, limites sont plus importants en permaculture que si tu les alignes juste les plantes comme ça. Du coup, ça évite d'utiliser des engrais, ça évite de faire énormément de jardinage. Et en fait, c'est tout bénef. La permaculture, c'est super cool, mais que ce soit en France ou en Mongolie d'ailleurs...
Et donc, est-ce que vous êtes un peu sensibilisée à la permaculture déjà ?
Bah du coup, ouais. On s'est dit que si on partait en Mongolie pour faire de la permaculture, il fallait qu'on soit un minimum sensibilisée. Donc, on a tous regardé le film Demain déjà. Ouais. C'était un bon truc. On en a qui sont allés faire des aller écouter des conférences à Nantes sur la permaculture. Moi, j'étais à Paris cette année, donc j'ai pas pu y aller. Mais ouais, l'idée, on a lu, on a... Et aussi sur la Mongolie, on s'est sensibilisée. Il y a eu un rendez-vous en terre inconnue en novembre en Mongolie. Et on l'a regardé...
D'accord.
Du coup, pour voir un peu la vie là-bas.
Et donc, est-ce que l'association avec laquelle vous partez vous a aussi aidé à trouver des ressources
Ouais. Ils nous ont pas mal aidé. Ils nous ont pas mal parlé du coup de comment ça allait se passer, etc. Et en fait, on a un outil incroyable qui s'appelle le dossier de camp, que chaque unité, peu importe, ça va que tu sois farfadet ou compas, tu remplis un dossier de camp quand tu pars en camp. Et le dossier de camp est hyper précis et du coup dit qu'est-ce que vous faites tel jour, où est-ce que vous dormez, comment est-ce que vous vous douchez, est-ce qu'il y a de l'eau potable, est-ce que il faut des pastilles pour rendre l'eau potable. C'est très très concret du coup, ça te force à faire un projet concret et à maîtriser chaque aspect de ton projet.
Ouais. Comme ça, vous partez pas en pleine nature en vous disant oh, tiens, on a oublié ça, c'est bien con, il y en a nulle part.
C'est ça. Et tu te dis au pire on improvisera.
Ouais.
Parce que tu ne connais pas la réalité là-bas, en fait.
Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Enfin, ça montre à quel point vous devez être autonome pour partir.
C'est ça. En fait, il y a pour tous les camps à l'étranger, il y a un service international des scouts et guides de France. Et en fait, le service international valide ou pas les camps à l'étranger. Du coup, si le service international dit non, tu pars pas. Parce que ça veut dire qu'ils ne te font pas assez confiance en ton projet. Ils font pas assez confiance en ton projet et peut-être en ton partenaire. Parce que on a de la chance d'avoir une super association en partenaire, mais il y a des équipes pour lesquelles ce n'était pas le cas. Et c'est des partenaires un peu bof-bof niveau fiabilité et qui, du coup...
Oui, il faudrait pas que tu te retrouves toute seule à six jeunes adultes en Mongolie, si tu connais pas du tout la langue, le pays. Et...
Ouais.
Ça peut être compliqué, en effet.
C'est ça. Et en fait, il y en a beaucoup qui... Il y a certains partenaires qui pourraient un peu prendre les scouts comme de la main-d'œuvre. C'est pas le but.
Ouais.
On n'est pas des ouvriers gratos. Sinon, si on faisait du travail d'ouvrier ou du travail qui a pas de sens derrière, dans ce cas-là, il faudrait qu'on demande à être payé, quoi, mais ça n'a juste pas de sens.
Ouais. Et donc, tu parlais tout à l'heure qu'il faut trouver le financement pour partir.
Ouais.
Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que tu peux donner une fourchette du besoin de financement que vous aviez ?
Ouais.
Et comment est-ce que vous avez réussi à le remplir petit à petit ?
Alors, au niveau du budget, nous, on avait un budget d'environ 13 400 euros. Pour 6.
Pour 6, oui.
Billets d'avion compris. Parce que c'est aussi c'est la plus grosse partie de notre budget, les billets d'avion.
Je me doute que sur place, tu ne vas pas dépenser des sommes astronomiques en hôtel 4 étoiles.
Après, ça dépend aussi de la, comment dire, de la destination. Forcément, les équipes qui partent en Europe, elles ont beaucoup moins de budget. Elles peuvent descendre, par exemple, à 6, on aurait pu descendre à 6 000 si on était parti en Europe. Mais on a choisi la Mongolie parce qu'on avait envie et ce n'est pas l'argent qui nous a freinés. Du coup, on a fait beaucoup d'extra jobs, donc c'est des travaux qui sont rémunérés par des particuliers généralement. Donc c'est des ventes de gâteaux, on a vendu des gâteaux sur les marchés, on a fait beaucoup de babysitting, on a fait des papiers cadeaux aussi. Voilà, vous allez sûrement croiser des scouts sur les périodes des fêtes à faire des papiers cadeaux.
Et maintenant, vous saurez que c'est pas pour financer un truc, une association cato, ça se trouve, c'est juste pour financer leur camp. Et...
Si vous voyez des chemises vertes par des papiers cadeaux, généralement, c'est juste pour financer leur budget d'équipe.
Ouais.
Et clairement, ils vont rien reverser au scout équipe de France. C'est juste, tu aides une équipe à partir. Et ensuite, on a fait un gros dossier de subvention qui s'appelle le JSI. Et ça, c'est pas du tout propre au scout. C'est le ministère des Affaires étrangères qui fait ça. Et en gros, on a récolté 5 600 € de ce dossier-là.
Ouais.
C'était long. C'était
mais ça valait le coup.
Mais ça valait le coup parce que du coup, on a eu toute la subvention qu'on avait demandée. Ouais. Mais parce c'est quand même 50 pages d'explication de ton projet.
Ah bah c'est une demande de subvention, c'est compliqué.
Voilà, hein. C'est ça. Mais du coup, ouais, c'est 50 pages que tu dois faire. Hein. On a commencé le dossier fin décembre, il fallait le rendre fin février.
Ouais.
Donc en 2 mois, tu fais 50 pages de dossier de subvention avec présentation, lettre de motivation de chaque personne, présentation du projet. Et il y a des pages entières avec des questions, des redites.
Oui, il faut toujours.
Et vous, toi, t'es là genre, ok, j'ai déjà dit ça, mais je vais quand même expliquer encore une fois.
Mais en plus, ce qui est intéressant dans la subvention, c'est que je pense pas qu'on l'ait dit jusqu'à présent, mais les scouts, c'est une association d'utilité publique.
Oui, c'est ça.
Et de ce que tu expliques depuis tout à l'heure, en fait, c'est des projets sociaux ou des projets qui sont ouverts à tous et qui essayent de sensibiliser à plein de causes. On parlait tout à l'heure de tes jeunes. Ah, il faut qu'on parle aussi de ça, du fait que t'es chef ten.
C'est vrai. aussi.
Le temps tourne, dis donc. Et donc c'est vrai que c'est un truc important. Donc je pense que les subventions viennent aussi du fait que l'association dans laquelle de laquelle tu fais partie, est quand même reconnue depuis un certain temps
d'utilité publique. Pour faire ça. D'ailleurs, il y a une anecdote drôle là-dessus, c'est que ça a été reconnu d'utilité publique sous le régime de Vichy, mais...
Oups.
Mais ça a été reconnu du coup après sous...
après sous... ils ont dit, non mais c'est bon.
Sous le régime d'après Vichy, je sais plus lequel c'est, mais... Mais du coup, ouais, c'est la petite anecdote marrante, c'est que les scouts ont d'abord été reconnus d'utilité publique sous Vichy. Mais oui, donc, du coup, ça aide pas mal en fait de partir forcément avec des scouts. Après, il y a d'autres associations qui demandent le JSI. C'est des associations absolument pas scouts, oui. Mais du coup, eux, ils ont l'avantage que nous on n'a pas, c'est d'avoir vraiment des encadrants qui partent avec eux.
Oui, ce que vous avez pas.
Ce que nous on n'a pas, parce qu'en fait, on a des accompagnateurs, mais ils partent pas avec nous.
Et donc, le rôle des accompagnateurs, c'est de vous aider à vraiment mettre en place le projet.
C'est ça.
Mais vous, une fois que vous êtes à l'aéroport, ils sont plus là.
C'est ça. Et même sur l'année, globalement, on fait des réunions sans nos accompagnateurs. C'est juste, les accompagnateurs sont là. Voilà, si vous avez besoin d'aide, on est là. Si vous avez besoin de ressources, on vous les trouve. Si on a besoin de vous relancer en tant qu'équipe, parce que parfois, il y a des moments où tout le monde a sa vie à côté. Et y a, comment dire, la motivation fait un peu...
Au moment des partiels, je pense que c'est compliqué.
Au moment des partiels, moi, j'ai un peu arrêté sur la semaine scoutisme. Et même j'ai dû arrêter justement d'être chef pendant 3 mois parce que justement avec la fac et le projet c'était compliqué de faire tout en même temps. Ouais. Mais sinon nous on fait vraiment tout en autonomie et voilà, tes accompagnateurs ils sont là pour t'aider mais ils sont pas là pour faire à ta place du tout et c'est toi qui pars tout seul et ils sont pas là avec toi à partir ils sont là avant le départ, ils sont là après le départ pour t'aider justement à refaire une relecture de ton projet, mais c'est tout.
D'accord. Et donc, tu es chef ten.
Oui.
Tu es chef ten de quelle tranche d'âge?
Des 11-14, du coup, des scouts guides.
Des scouts guides, ok. Donc, tu as ta chemise bleue avec toi. Elle est là,
elle est derrière. J'ai ramené des chemises et des foulards. Alors, attends. Alors, donc, la chemise...
Donc, il y en a deux.
Donc, la chemise compagnon.
Tu es compagnon.
Elle est verte, comme ça. Vert, pas fond vert, du coup.
Vert, oui, parce qu'il y a
vert, bof, fond vert.
Ah, ça marche
vert, bof, fond vert, avec ce foulard-là, parce qu'en fait, un foulard égale un groupe en France. On est par groupe.
D'accord.
Il y a environ, je crois, 800 groupes en France, donc il y en a une masse de groupes. Okay. Un groupe, c'est une centaine d'adhérents, environ. Et ensuite, il y a la chemise bleue, du coup, qui va très bien passer sur le fond vert, pour le coup. Et avec le foulard qui va avec... Hop.
Et le hashtag « Nous sommes unis ».
Voilà, c'est ça. The Chez Coexister. Parce qu'on aime coexister aussi. Forcément, scoutisme interreligieux, on fait beaucoup de trucs avec Coexister aussi.
Et donc Coexister, c'est ?
C'est une association d'interreligion. C'est des jeunes... en fait, c'est parti d'après après les attentats, c'est parti de, comment dire, d'un jeune qui s'est dit bah, « Je vais faire un don du sang... » comment dire, je vais faire un don du sang avec, en invitant plein de gens de confessions différentes.
D'accord.
Et ensuite, c'est devenu une grosse association, pareil, plein de groupes dans chaque ville de France. Et donc voilà, on fait beaucoup de partenariats avec Coexister parce que c'est l'ouverture à l'interreligion. Eux, ils ont les outils que nous, on n'a pas en étant scout,
oui,
pour nous éclairer sur le sujet, en fait.
Trop bien. Et donc, c'est quoi le rôle de Cheftaine avec les 11-14?
Alors du coup, l'idée, c'est de les guider dans pas mal de choses, parce que quand tu as 11-14 ans et que tu veux faire des projets, tu sais pas trop comment ça se passe. Donc, par exemple, c'est nous qui contactons les associations, etc., etc. L'idée, c'est de les, comment dire, de les éduquer à tout ce qui est vie dans la nature, à l'autonomie. En fait, la particularité de ma mission de Cheftaine, c'est que j'étais dans un groupe qui s'ouvrait. Donc, aucun de mes jeunes n'avait fait du scoutisme. D'accord. Alors que généralement, chez les 11-14, les jeunes ont été louveteaux avant, donc ont eu une première expérience du scoutisme. Là, il fallait tout leur apprendre, du montage de tente à comment est-ce qu'on noue son foulard, par exemple, comment, ouais, est-ce qu'on met son foulard bien, et pourquoi est-ce qu'on porte la chemise et le foulard, par exemple. C'est des trucs, quand t'as commencé tout petit, ça devient tellement logique que t'oublies, ouais, qu'il y a
pourquoi,
des gens...
C'est vrai, pourquoi il y a un uniforme? En plus, quand t'as 11-14, je pense que c'est une question de...
Bah oui, oui.
Si t'es pas dans un... Bah, en même temps, je crois qu'en France, il n'y a aucun... Je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des uniformes...
Dans les écoles ?
Dans les écoles ?
Dans les écoles, si, il y a des écoles privées hors contrat qui, ouais, en font.
D'accord.
Mais bon, c'est une très grosse...
Une minorité, on va dire. Minorité. Donc c'est vrai que quand t'as entre 11 et 14 ans, enfin moi tu m'aurais dit, à 13 ans, tu portes une chemise de telle couleur et t'as pas le choix et t'as ton machin, j'aurais été là, non mais ça me va trop pas, non mais, mais pourquoi tu veux me faire porter ça, ça va pas ou quoi ? Non, c'est mort. Et du coup, je pense que c'est un truc important à expliquer.
Bah, c'est ça, ouais.
Et bah, du coup, pourquoi il y a des uniformes
Alors du coup, les uniformes, ils servent déjà à distinguer les tranches d'âge. Ouais. Comme ça, tu ne confonds pas un jeune de 8 ans avec un jeune de 11 ans, même s'ils peuvent se ressembler.
Oui,
du coup, ça sert aussi à reconnaître les scouts, comment dire, ça t'inclut du coup dans,
ouais,
dans la famille du scoutisme. À partir du moment où tu as ton foulard et ta chemise, bah, ça y est, t'es scout. T'as pas besoin de faire de trucs, t'es juste ta chemise, ton foulard, t'arrives, tu commences à faire les activités, bah c'est bon, t'es scout. T'es totalement inclus dans l'association. Et après, le foulard, c'est vraiment pour différencier le groupe. Donc pour dire, voilà, nous, on est de tel groupe. Par exemple, dans les grandes villes, il y a plusieurs groupes. À Paris, je sais pas, il y en a, je peux pas dire de chiffres énormes, mais il y en a quand même facilement 50, je pense, voire plus.
Ouais.
Donc clairement, c'est, voilà, on est de tel groupe, on a notre identité. Et mais la symbolique du foulard, c'est ce qu'un de mes anciens chefs me disait, c'est que peu importe où tu vas dans le monde, le scout n'aura pas toujours de chemise. Parce que par exemple, en Australie, ils ont plutôt des t-shirts.
Oui.
La chemise tient très chaud. Mais en revanche, il aura toujours un foulard. Parce que le foulard, c'était le symbole qu'a créé Baden Powell, donc le créateur des scouts. Donc voilà, peu importe où tu vas dans le monde, un scout, il aura toujours un foulard. Et d'ailleurs, je vois des gens dans les aéroports parfois se balader avec leur foulard scout. Et ça incite trop à la rencontre, ouais, parce que du coup, toi, t'es scout, tu fais « Hey, toi, t'es scout !»
Oui, c'est un peu la marque la marque pour dire « Hey, viens, on est copains !»
C'est ça, c'est bien, on partage les mêmes valeurs, du coup, on va discuter et on va se rencontrer, ça va être trop bien.
Trop cool.
Et donc voilà, c'est la seule symbolique de l'uniforme. Après, en camp, la chemise, on ne le porte pas tous les jours parce que c'est déjà hyper chaude.
Oui, elles sont assez épaisses, les chemises.
Elles sont relativement épaisses et je plains toutes les équipes compas qui partent en Afrique cet été parce qu'ils vont vraiment souffrir sous la, ouais, chemise. Donc tu la portes que en camp quand tu représentes vraiment ton association. Ça, oui, sert aussi à dire quand t'es par exemple en sortie dans un parc, tu fais des jeux dans un parc, surtout à Paris où clairement tu peux pas aller à la campagne aussi facilement que ça. Tu vas dans un parc et bah, ça sert à dire, voilà, nous on est scouts, si tu veux venir, viens, mais ça sert un peu à être visible en fait. Si on était juste des jeunes comme ça, habillés normalement, qui jouent, bah, tu te dis, ouais, c'est un anniversaire, c'est une bande de copains, ouais. C'est... Alors que là, ça sert vraiment à montrer que voilà, on est un mouvement de jeunes et c'est ça sert à être visible.
Ouais. Et donc, ton rôle, là par exemple, ça fait combien de temps que tu es chez FTN ?
J'ai commencé en septembre.
D'accord.
Parce que du coup, avant, j'étais compas l'année dernière aussi, mais j'étais en terminale et j'avais pas 18 ans pour les camps.
D'accord.
Du coup, ça dépend de qui valide ton dossier de camp, mais il y a certaines personnes qui disent « Ah non, je veux pas de chef mineur », ce qui peut se comprendre.
Oui.
Donc du coup, j'ai pas fait chef parce que je savais que j'allais potentiellement pas faire les camps parce que j'étais mineure.
Et donc, il faut que tu fasses... Il faut 1, 2, 3... Il faut que tu passes ton BAFA pour être chef ?
Alors non, pas forcément.
Okay.
C'est une proposition. En fait, les scouts et guides de France font des stages de formation qui sont rattachés au cursus BAFA. C'est-à-dire que quand tu fais ton stage de formation, celui-là, il est plutôt obligatoire, du coup, les stages de formation.
Oui.
Tu peux choisir de faire un cursus BAFA, mais si tu n'as pas envie de passer ton BAFA, bah, tu fais juste les stages de formation tranquillou chez les scouts et tu n'auras pas ton BAFA à côté. Mais ce n'est pas grave, en fait. Si tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin.
D'accord.
Mais du coup, la plupart des gens choisissent de passer le BAFA parce que c'est un diplôme qui est reconnu en dehors des scouts, alors que les diplômes scouts sont des diplômes scouts.
Oui.
Et là, du coup, la différence avec le BAFA, c'est que chez les scouts, tu peux commencer à diriger des camps juste une fois que tu as fait tes deux stages, ce qui correspond du coup à un BAFA complet. Alors que chez dans le cursus BAFA, il faut que tu fasses le BAFD, qui est un autre diplôme après le BAFA. Donc en fait, tu as deux diplômes pour diriger une colo.
C'est compliqué, d'accord.
Deux diplômes pour diriger une colo chez les non-scouts contre juste un diplôme pour diriger des camps.
D'accord.
Ça témoigne un peu de la confiance que les gens font au chef. Que les cadres du mouvement font totalement confiance au chef. Et ça, c'est incroyable quand tu as 18 ans de voir les parents déjà qui te font hyper confiance avec leurs enfants.
Ouais.
C'est assez ouf.
C'est rare à 18 ans qu'on te fasse confiance avec un groupe d'enfants.
Voilà,
en
c'est disant, ça.
Mais vas-y.
Vas-y, fais ce que tu veux.
T'as pas ton BAFA, mais vas-y. Souvent, c'est est-ce que t'as ton BAFA, c'est bon, t'as fait du babysitting.
Ouais, alors que là, c'est plus genre. Ok, on sait que tu es accompagnée derrière, parce que forcément, les chefs ne sont pas tout seuls.
Oui.
Il y a plein d'instances que je ne vais pas citer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour accompagner les chefs. Et voilà, c'est si tu as un problème, il y a toujours quelqu'un derrière toi qui pourra te dire... Enfin, qui pourra soit solutionner ton problème, soit te donner les ressources nécessaires pour solutionner ton problème. Par exemple, je ne sais pas s'il y a un conflit entre jeunes ou s'il y a un problème dans une unité, par exemple... parce que le harcèlement, ça existe aussi. Faut pas croire que, comment dire, il y a du harcèlement.
Rose, ouais.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup moins que dans le scolaire, mais ça peut arriver. Pareil, des histoires sombres. On dit tout le temps que le scoutisme, c'est les chefs qui vont dans la tente des jeunes. Il y a pas mal. Je sais pas si t'as entendu ces histoires-là, mais moi, je me prends pas mal de vannes là-dessus en disant oui, c'est les chefs qui font des attouchements sur les jeunes et tout. Non, c'est faux. Ça n'arrive pas. Mais il y a des cas très isolés où ça peut arriver, et ça, il y a toujours quelqu'un derrière.
Oui, comme dans notre société, de manière générale, il y a quand même des trucs hyper chelous qui se passent dans la société.
Voilà, c'est ça, mais c'est des cas isolés, et clairement...
Hyper grave, quoi, mais c'est... Oui, c'est des trucs qui...
C'est ça.
Qui se passent même en dehors des scouts.
Voilà, c'est ça.
C'est les gens qui ne vont pas bien. C'est juste des gens qui ne vont pas bien.
Et puis, pour reprendre un truc beaucoup moins grave, imaginons, dans une unité, il y a un problème de sexisme. Toi, en tant que chef, tu sais pas trop comment aborder le truc. Peut-être parce que toi-même, t'es une fille et que du coup, tu te sens pas de trop te parler de sexisme. T'as peur que les garçons soient pas assez touchés par ce que tu dis.
Ils vont pas t'écouter, mais non, mais c'est une fille.
Voilà, c'est ça. Les jeunes peuvent te répondre ah, mais non, mais c'est parce que toi, t'es une fille que tu dis ça. Et du coup, penser que tu fais de la préférence ou quoi que ce soit, tu vas vers ta personne ressource pour lui dire écoute, est-ce que t'as pas une idée de comment est-ce que je peux aborder le sujet sans justement tomber dans ce truc-là en mode je suis une fille donc je défends les filles.
Oui.
Parce que c'est ça qui est cool avec les 11-14, mais ça peut être aussi vite relou, c'est qu'ils sont au taquet. C'est-à-dire que tu fais un truc, ils vont te répondre direct. Et du coup, toi, ça t'oblige toujours avoir un peu une longueur d'avance sur eux. Mais d'un côté, c'est cool parce que du coup, ils sont hyper réactifs et tu mènes des projets cool comme ça. Si les jeunes sont réactifs, tu leur proposes ça, ils font OK, trop cool, ou alors ah non, j'aime pas. bah, au moins tu sais ce qui leur convient et tu sais comment les diriger vers quelque chose dont ils seront fiers. Parce que c'est ça l'objectif des chefs, c'est qu'à la fin du projet, à la fin de l'année, à la fin du camp, tes jeunes ils soient trop fiers de ce qu'ils ont vécu. Si tes jeunes sont fiers, ça va. Enfin, ouais. Ça va. Non, mais.
Ça va, mon gosse.
Ça va. Non, c'est plus genre, ok, enfin, t'es content. De voir tes jeunes fiers, ça te rend toi-même fier. Ouais.
Je pense qu'on va clôturer cette émission maintenant. Je pense qu'on aurait encore plein de choses à se dire. Ce que je te propose, c'est que, éventuellement, si tu veux, je te réinvite pour quand t'auras fait ton.
Un backup.
Quand t'auras fait ton.
Titre lecture, projet long.
Quand tu auras fait ton projet en Mongolie et en permaculture. Et on parlera aussi de l'aspect des camps à plusieurs, parce que tu me parlais aussi de tout ce qui est les âgés ou les trucs comme ça, où,
oui.
Où vous êtes vraiment
ouais,
des
de la vie du mouvement en général. Ouais.
Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant de faire une partie 2 du scoutisme.
Ouais, ouais,
je sais pas ce que t'en penses.
De partie 2 chez les scouts et guides de France. Parce que c'est vrai que j'ai pas mentionné trop ça, mais je suis aussi musicienne. Et du coup, j'ai fait énormément de choses dans le scoutisme avec la musique.
Grâce à ça.
Grâce à ça. Et j'en suis arrivée à dire, enfin, tout le monde ne dit pas « Ouais, j'ai fait un concert devant 1500 personnes. C'était oui. sympa. »
Tout le monde ne dit pas ça à 18
et
ans.
Et voilà, c'est ça. Et du coup, on a eu l'opportunité de faire ça et c'était vraiment trop bien. Et on n'aurait pas eu l'opportunité si les gens ne te faisaient pas confiance de se dire « Pour l'animation, on prend qui ?» Le groupe de 7 petits jeunes, là, entre 17 et 19 ?» Ok, très bien. Vas-y, go.
Ouais.
C'est ce que chez les scouts que ça arrive, ce genre de choses.
Donc je pense qu'on pourra reparler de tout ça et surtout parler de ton projet en Mongolie que j'espère va très bien se passer et que ça, tu vas apprendre plein de trucs et tu vas revenir avec des étoiles dans les yeux.
Ouais, j'espère aussi.
Merci à tous de nous avoir écoutés et merci, j'ai vu qu'il y avait tes parents qui t'avaient envoyé des messages. Et tout,
ma petite sœur aussi.
et on va voir pour s'organiser toutes les deux. Merci de nous avoir suivis et d'avoir écouté cette émission. Ça me fait très plaisir de l'avoir animée. J'ai appris plein de choses. Merci encore à toi d'être venue, d'avoir fait tout ce chemin pour passer une heure avec moi dans la canicule. Et ça m'a fait très plaisir donc de découvrir l'univers du scoutisme sur lequel, j'avoue, je ne connaissais rien. Voilà. Si vous nous écoutez en podcast après ce live formidable, n'hésitez pas à nous donner de l'amour en nous notant sur iTunes. Vous cherchez Mademoiselle en audio. Et vous allez mettre des petites notes, des petites étoiles. Si vous mettez 5 étoiles, je vous serai éternellement reconnaissante. Ça nous aide juste à être mieux référencés et à faire connaître les podcasts de Mademoiselle. Donc si vous les trouvez cool, n'hésitez pas. Et puis je vous rappelle que je mettrai les références. Donc on a parlé de 2 articles de Mademoiselle, Cyril Dion et Ophélie, qui est partie faire du maraîchage après avoir fait de la pub à Paris. Je les mettrai donc en lien dans l'article du replay de Mademoiselle. Et puis, je rappelle aussi que vous pouvez participer à C'est ça qu'on aime, vous faites comme Solène.
Oui.
Vous m'envoyez un mail. Un mail à louise@mademoiselle.com. Je pense que je lui ai répondu dans les 10 minutes.
Ça s'est joué en très peu de temps. J'étais dans le train, j'ai envoyé un mail et l'après-midi, on se parlait au téléphone et je savais que je venais. C'était il y a une semaine.
Voilà.
Donc, ça rapide. Se joue très rapidement.
Là, je pars en congé, donc calmez-vous. Mais voilà, c'est ça qu'on aime, ça continue. Donc n'hésitez pas, si vous avez une passion, une expérience à partager, typiquement voilà, quand tu reviens de Mongolie, ça sera une expérience à partager. Il y a des gens qui sont venus parler du Burning Man. Il y a des gens, la semaine dernière, elles ont parlé d'éthologie. Est-ce que vous savez ce que c'est l'éthologie ? Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas l'étude du comportement animal. Ben voilà, j'ai découvert ça grâce à C'est ça qu'on aime. Donc si vous avez une passion un peu hors du commun, que vous avez une expérience que vous voulez partager, n'hésitez pas à louise@mademoiselle.com en mettant en objet C'est ça qu'on aime et vous m'expliquez pourquoi c'est si bien et qu'est-ce que vous avez à raconter dans votre mail et puis on s'appelle et vous passez et ça sera cool, voilà. On va se quitter en écoutant Two Cellos, le morceau s'appelle Moon River. Merci Solène.
De rien.
Ciao. Thank you.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.